Chapitre 18. La nouvelle cliente de Mariama portait un short en jean dont le tissu collait à ses fesses et des baskets du même rose vif que son t-shirt. Une paire de créoles frôlait son visage. Elle se tenait devant le miroir, décrivant le genre de tresse collée qu'elle désirait. En zigzag, avec une raie sur le côté, juste ici, mais n'ajoutez pas les cheveux au début. Vous les ajoutez quand vous arrivez à la queue de cheval, dit-elle, parlant lentement, articulant exagérément. Vous me comprenez ? Ajouta-t-elle, déjà convaincue, semblait-il, qu'il n'en était rien. Je comprends, dit Mariama calmement. Voulez-vous voir une photo ? J'ai ce style dans mon album. Elles feuilletèrent l'album et la cliente fut enfin satisfaite et s'installa, une feuille de plastique élimée autour du cou, son fauteuil ajusté à la bonne hauteur, tandis que Mariama, pendant tout ce temps, affichait un sourire qui en disait long. Cette coiffeuse chez qui je suis allée l'autre jour, dit la cliente. Elle était africaine, elle aussi, et elle voulait me brûler les cheveux. Elle a sorti un briquet et je me suis dit « Shante White, ne laisse pas cette fille approcher ce truc de tes cheveux !» Alors je lui demande « C'est pour quoi faire ?» Elle dit « Je veux nettoyer vos tresses » et je dis « Quoi ?» Alors elle a essayé de me montrer, de passer le briquet au-dessus d'une tresse et je me suis mise hors de moi. Mariama secoua la tête. « Oh, mais c'est mal. C'est pas normal de brûler. On ne fait pas ça chez nous. » Une cliente entra, la tête couverte d'un foulard jaune vif. « Bonjour !» dit-elle. « Je voudrais me faire des tresses. »« Quel genre de tresses voulez-vous ? » demanda Mariama. « Oh, juste des box braids classiques, taille moyenne. »« Voulez-vous les longues ?»« Pas trop longues, peut-être sur les épaules. » »« Très bien, asseyez-vous. Elle va vous les faire. » dit Mariama, désignant Halima qui était assise dans le fond du salon, les yeux rivés sur la télévision. Halima se leva et s'étira, un peu trop longuement, comme si elle voulait marquer son manque d'enthousiasme. La femme s'assit et montra la pile de DVD. « Vous vendez des films nigérians ?»« J'en vendais avant, mais mon fournisseur a mis la clé sous la porte. Vous voulez en acheter ?»« Non, c'est juste que vous avez l'air d'en avoir beaucoup. »« Certains sont vraiment bons, » dit Mariama. « Je ne supporte pas de regarder ces trucs-là. Je suppose que j'ai un préjugé. Chez moi, en Afrique du Sud, les Nigérians sont connus pour voler les cartes de crédit, faire du trafic de drogue et tremper dans toutes sortes de choses bizarres. Je pense que les films sont aussi un peu comme ça. « Vous êtes d'Afrique du Sud ? Vous n'avez pas d'accent ?» s'exclama Mariama. La femme haussa les épaules. « Je suis ici depuis longtemps, ça ne se remarque plus beaucoup. » « Non, » dit Halima, qui s'anima soudain derrière sa cliente. Quand j'arrive ici avec mon fils, ils le battent à l'école à cause de son accent africain, à Newark. Si vous voyez son visage, violet comme un oignon. Ils l'ont battu, battu, battu. Des garçons noirs l'ont battu. Maintenant l'accent est parti et no problème. Je suis désolée d'entendre ça, dit la femme. Merci. Halima sourit, séduite par cette femme à cause de cet exploit extraordinaire, son accent américain. Oui, le Nigeria très corrompu. Le pays le plus corrompu d'Afrique. Moi, je regarde le film, mais non, je vais pas au Nigeria. Elle fit un geste vague de la main. Je ne peux pas épouser un Nigérian et je ne laisserai personne de ma famille épouser un Nigérian, dit Mariama, jetant à Ifemelu un regard d'excuse. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux agissent mal. Ils tuent même pour de l'argent. Ah bon ? Je ne suis pas au courant, dit la cliente d'un ton à moitié convaincu. Aïcha les regardait en douce, sans rien dire. Un peu plus tard, elle glissa à Ifemelu, l'air soupçonneux. « Tu es ici 15 ans, mais tu n'as pas l'accent américain. Pourquoi ?» Ifemelu l'ignora et de nouveau ouvrit Kane, de Jean Toomer. Elle fixa les mots sans les voir et tout à coup souhaita pouvoir revenir en arrière et remettre à plus tard sa décision de rentrer au pays. Peut-être était-ce trop précipité. Elle n'aurait pas dû vendre son appartement. Elle aurait dû accepter l'offre du magazine Letterly, d'acheter son blog et de la garder comme salariée. Que se passerait-il si, une fois rentrée à Lagos, elle se rendait compte qu'elle s'était trompée ? Même la pensée qu'elle pourrait toujours revenir aux États-Unis ne la réconfortait pas autant qu'elle l'aurait voulu. Le film se termina et, dans le silence revenu, la cliente de Mariama dit « Ah, celle-ci est mal faite !» en touchant une des minces tresses qui zigzaguait sur son crâne. Elle parlait d'une voix plus haute que nécessaire. « Pas de problème, je vais la refaire », dit Mariama. Elle restait aimable, gardait un ton égal, mais Ifemelu voyait bien qu'elle considérait sa cliente comme une emmerdeuse, qu'il n'y avait rien à reprocher à sa tresse. Mais cela faisait partie de sa nouvelle personnalité américaine, cette dévotion au client, ce faux brillant des apparences, et elle l'avait accepté, épousé. Quand la cliente serait partie, elle reviendrait peut-être à son ancien moi et dirait quelque chose à Halima et à Aïcha sur les Américains, qu'ils étaient gâtés, infantiles, croyaient avoir tous les droits. Mais quand la cliente suivante se présenterait, elle retrouverait à nouveau la version parfaite de son moi américain. Sa cliente dit « C'est très joli !» en payant Mariama, et peu après son départ, une jeune femme blanche entra, silhouette décontractée, bronzée, les cheveux attachés en une souple queue de cheval. « Bonjour !» fit-elle. Mariama dit « Bonjour !» puis attendit, s'essuyant les mains avec insistance sur le devant de son short. « Je voudrais me faire tresser les cheveux. Vous pouvez le faire, je suppose. » Mariama sourit avec un empressement exagéré. « Oui, nous faisons toutes sortes de coiffures. Vous voulez des tresses simples ou des tresses collées ?» Elle nettoyait furieusement le fauteuil. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » La femme s'assit et dit qu'elle voulait des tresses collées. « Comme celle de Beau Derek, dans Ten, vous voyez ?»« Oui, » dit Mariama. Ifemelu en douta. « Je m'appelle Kelsey. » annonça la femme comme si elle s'adressait à toute la pièce. Elle était excessivement amicale. Elle demanda à Mariama d'où elle venait, depuis combien de temps elle était en Amérique, si elle avait des enfants, comment marchaient les affaires. Il y a des hauts et des bas, mais nous faisons notre possible. Vous ne pourriez même pas avoir ce genre d'affaires dans votre pays, je pense. C'est merveilleux que vous ayez pu venir en Amérique et que vos enfants puissent avoir une vie meilleure, n'est-ce pas? Mariama eut l'air surpris. « Oui. Les femmes ont-elles le droit de vote dans votre pays ?» demanda Kelsey. Un silence plus long. « Oui, » répondit Mariama. « Que lisez-vous ?» Kelsey s'était tournée vers Ifemelu. Ifemelu lui montra la couverture du roman. Elle n'avait pas envie d'engager une conversation, surtout avec Kelsey. Elle reconnaissait chez elle le nationalisme des Américains libéraux qui critiquaient copieusement l'Amérique mais n'aimez pas que vous en fassiez autant. Il s'attendait à ce que vous gardiez le silence, soyez reconnaissant et vous rappelez en permanence à quel point l'Amérique était supérieure à l'endroit, quel qu'il soit, d'où vous veniez. C'est bien ? Oui. C'est un roman, n'est-ce pas ? De quoi parle-t-il ? Pourquoi les gens demandaient-ils « de quoi parle-t-il » comme si un roman devait parler d'une seule chose ? La question déplut à Ifemelu. Elle lui aurait déplu même si elle n'avait pas ressenti, outre cette décourageante incertitude, un début de migraine. Ce n'est peut-être pas le genre de livre que vous aimeriez si vous avez des goûts particuliers. C'est un mélange de prose et de poésie. Vous avez un accent merveilleux. D'où êtes-vous ? Du Nigeria. Ah, génial ! Kelsey avait des doigts fins. Ils auraient été parfaits dans une publicité pour des bagues. J'ai l'intention de me rendre en Afrique cet automne, au Congo et au Kenya. J'essaierai peut-être de visiter la Tanzanie. C'est bien. J'ai lu des livres pour me préparer. Tout le monde m'a recommandé Le Monde s'effondre, que j'avais lu au lycée. C'est un très bon livre, mais un peu désuet, non? Je veux dire, il ne m'a pas aidé à comprendre l'Afrique moderne. Je viens de lire ce livre formidable, À la courbe du fleuve. Il m'a permis de vraiment comprendre comment l'Afrique d'aujourd'hui fonctionne. Ifemelu émit un son, à mi-chemin entre un grognement et un bourdonnement, mais ne dit rien. Il est tellement honnête, le livre le plus honnête que j'ai lu à propos de l'Afrique. Ifemelu s'agita sur son siège. Le ton affirmatif de Kelsey lui tapait sur les nerfs. Sa migraine empirait. Elle ne pensait pas que le sujet du roman fût l'Afrique. Il concernait l'Europe, ou le regret de l'Europe, l'image meurtrie qu'avait de lui-même un Indien né en Afrique, qui se sentait blessé, diminué de ne pas être né européen, membre d'une race qu'il avait élevée au pinacle pour sa capacité créatrice et transformer ses prétendues incapacités personnelles en une impatience méprisante pour l'Afrique. En affichant une attitude hautaine envers l'Africain, il pouvait devenir, même fugitivement, un Européen. Elle s'inclina en arrière dans son siège et exprima cette idée sur un ton mesuré. Kelsey eut l'air stupéfait. Elle ne s'était pas attendue à une mini-conférence. Puis elle dit aimablement « Oh, bon, je vois pourquoi vous interprétez le roman de cette façon. Et je vois pourquoi vous l'interprétez comme vous le faites », répliqua Ifemelu. Kelsey haussa les sourcils, comme si Ifemelu était une de ces personnes un peu dérangées qu'il valait mieux éviter. Ifemelu ferma les yeux. Il lui semblait que des nuages s'amoncelaient au-dessus de sa tête. Elle se sentait faible. Peut-être était-ce la chaleur? Elle avait mis fin à une relation qui ne la rendait pas malheureuse, fermé un blog qui lui donnait satisfaction, et maintenant, elle partait à la recherche de quelque chose qu'elle ne pouvait définir avec précision, même en son fort intérieur. Elle aurait pu écrire un post à propos de Kelsey, cette femme qui se croyait miraculeusement neutre dans sa lecture des livres, alors que les autres laissaient parler leurs sentiments. « Voulez-vous qu'on ajoute des cheveux ?» demanda Mariama. « Des cheveux ?» Mariama désigna un paquet d'extensions enveloppées dans du plastique transparent. Les yeux de Kelsey s'agrandirent, et elle regarda rapidement autour d'elle, examinant le paquet dans lequel Aïcha prenait de petites longueurs pour chaque tresse, et celui qu'Alima était en train d'ouvrir. « Ah, mon Dieu ! C'est donc comme ça que vous faites ! Je croyais que les Afro-Américaines avec des tresses avaient une énorme quantité de cheveux. » « Non, nous utilisons des extensions, » dit Mariama en souriant. « Peut-être la prochaine fois. Je pense que je vais utiliser mes propres cheveux aujourd'hui. » Il ne fallut pas longtemps pour la coiffer, 7 tresses collées, avec des cheveux trop fins, prompts à se desserrer. « C'est parfait, » dit-elle à la fin. « Merci, » dit Mariama. « Revenez nous voir si vous voulez. Je peux vous faire une coiffure différente la prochaine fois. »
« Merveilleux !»
Ifemelu observa Mariama dans la glace, songeant à son propre nouveau moi américain. C'était avec Kurt qu'elle s'était pour la première fois regardée dans la glace et, avec une bouffée d'orgueil, y avait vu quelqu'un d'autre. Kurt aimait dire que l'amour avait jailli au premier rire. Chaque fois qu'on les questionnait sur les circonstances de leur rencontre, ils racontaient, même à des gens qu'ils connaissaient à peine, comment Kimberly les avait présentés, lui, le cousin débarquant du Maryland, elle, la babysitter nigériane dont Kimberly parlait tant, et qu'il avait été séduit par sa voix grave, par la tresse qui s'était échappée de son bandeau. Mais c'est quand Taylor s'était précipité dans le salon, portant une cape bleue et coiffée d'une culotte, criant « Je suis le capitaine culotte !» et qu'elle avait renversé la tête en arrière et éclaté de rire, qu'il était tombé amoureux. Son rire était si vibrant. Ses épaules se secouaient, sa poitrine se soulevait. C'était le rire d'une femme qui, lorsqu'elle riait, riait pour de bon. Parfois, quand ils étaient seuls et qu'elle riait, il disait d'un air moqueur « C'est ça qui m'a séduit. Et tu sais ce que j'ai pensé? Si elle rit de cette façon, je me demande comment elle fait le reste. » Il lui disait aussi qu'elle s'était rendue compte qu'il était sous le charme. Comment aurait-elle pu l'ignorer? Mais prétendait le contraire parce qu'elle ne voulait pas d'un blanc. En réalité, elle ne s'était aperçue de rien. Elle avait toujours su sentir le désir des hommes, mais pas dans le cas de Kurt, pas au début. Elle pensait encore à Blaine, le revoyait s'éloignant sur le quai de la gare à New Haven, image qu'il avait emplie d'un désir condamné à l'avance. Elle n'avait pas simplement été attirée par Blaine, elle avait été bouleversée par lui. Et dans son esprit, il était devenu le compagnon américain idéal qu'elle n'aurait jamais. Pourtant, elle avait eu d'autres béguins depuis, mineurs comparés à la rencontre du train. Et elle venait de faire une croix sur Abe, un étudiant de son cours d'éthique, Abe qui était blanc, Abe qui l'aimait bien, qui la trouvait intelligente et drôle, mais ne la considérait pas comme une femme. Abe éveillait sa curiosité, l'intéressait, mais les avances qu'elle lui faisait n'étaient pour lui que des signes de gentillesse. Abe la présenterait à son ami noir, s'il avait un ami noir. Elle était invisible pour lui. Cela coupa court à son coup de cœur et lui fit peut-être négliger Kurt. Jusqu'à cet après-midi, où elle jouait au ballon avec Taylor qui le lança très haut, trop haut, et où il atterrit dans les buissons près du cerisier du voisin. « Celui-là, je crois qu'on l'a perdu », dit Fémélou. La semaine précédente, un frisbee avait disparu au même endroit. Kurt se leva de la chaise du patio, d'où il épiait tous ses mouvements, lui avoua-t-il plus tard, et plongea dans le fourré, comme dans une piscine, pour en ressortir avec le ballon jaune. « Ouais ! Oncle Kurt !» dit Taylor. Mais Kurt ne lui donna pas le ballon. Il le tendit à Ifemelu. Elle vit dans ses yeux ce qu'il voulait qu'elle y voie. Elle sourit et dit « Merci ». Plus tard, dans la cuisine, où elle buvait un verre d'eau après avoir mis Taylor devant un film, il dit « C'est le moment de vous inviter à dîner, mais au point où j'en suis, tout m'ira très bien. Puis-je vous offrir un verre, une glace, un repas, une séance de cinéma ? Ce soir ? Ce week-end, avant que je retourne dans le Maryland ?» Il la regardait avec émerveillement, la tête un peu penchée, et elle sentit quelque chose se libérer en elle. C'était fantastique de se sentir désirée à ce point par cet homme qui avait une montre élégante au poignet, beau comme les modèles des catalogues de grands magasins avec sa fossette au menton. Il commença à lui plaire parce qu'elle sentait qu'elle lui plaisait. « Vous mangez si délicatement ?» lui dit-il lors de leur premier rendez-vous dans un restaurant italien de la vieille ville. Il n'y avait rien de particulièrement délicat dans la manière dont elle portait sa fourchette à sa bouche, mais elle fut heureuse qu'il le pense. « Donc, je suis un blanc riche qui vient de Potomac, mais je ne suis pas aussi idiot qu'on pourrait le supposer. » dit-il d'une façon telle qu'elle pensa qu'il avait déjà prononcé ces mots auparavant et qu'ils avaient été bien accueillis. « Laura dit toujours que ma mère est plus riche que Dieu, mais je n'en suis pas certain. » Il parlait volontiers de lui-même, comme s'il voulait lui communiquer tout ce qu'il y avait à connaître en une seule fois. Sa famille était propriétaire d'hôtels depuis un siècle. Pour lui échapper, il était parti étudier en Californie. Diplômé, il avait voyagé en Amérique latine et en Asie. Peu à peu, quelque chose l'avait incité à rentrer, peut-être la mort de son père, peut-être une histoire d'amour malheureuse. Il était alors revenu, un an plus tôt, dans le Maryland, avait créé une société de logiciels afin d'être indépendant des affaires familiales, acheté un appartement à Baltimore, et il allait tous les dimanches déjeuner avec sa mère à Potomac. Il parlait de lui-même avec une sobre simplicité, présumant que ses histoires la divertissaient tout simplement parce qu'elle le divertissait lui-même. Son enthousiasme juvénile la fascinait. Son corps était ferme lorsqu'il l'a pris dans ses bras au moment de lui dire bonsoir devant son appartement. « Je vais me risquer à vous embrasser dans précisément 3 secondes, » dit-il. « Un vrai baiser peut nous entraîner loin. Aussi, si vous n'en voulez pas, vous préférerez peut-être renoncer tout de suite. » Elle ne renonça pas. Le baiser fut excitant dans la mesure où une plongée dans l'inconnu est excitante. Après, il dit précipitamment « Il faut que nous le disions à Kimberly. » « Dire quoi à Kimberly ?»« Que nous sortons ensemble. » « C'est ce que nous faisons ?» Il rit et elle l'imita. Cependant, elle n'avait pas voulu plaisanter. Il était franc et bouillonnant. Il n'y avait pas une once de cynisme en lui. Elle se sentait charmée et presque sans défense face à ça, emportée par lui. Peut-être, en effet, sortaient-ils ensemble après un seul baiser, puisqu'il en était si sûr. Les premiers mots de Kimberly le lendemain matin furent « Bonjour, Tortorelle !» Alors vous pardonnez à votre cousin d'avoir invité la babysitter à sortir ? Kimberly rit, puis, sur une impulsion qui surprit et émut Ifemelu, elle la serra dans ses bras. Elles s'écartèrent l'une de l'autre, embarrassées. Oprah était à la télé dans le salon et elle entendit l'assistance applaudir à tout rompre. « Bon !» dit Kimberly, elle-même un peu surprise par cette étreinte. « Je voulais juste dire que je suis vraiment heureuse pour vous deux. » « Merci, mais nous n'avons eu qu'un seul rendez-vous et il n'y a pas eu consommation. » Kimberly pouffa et il leur sembla un instant être des copines de lycée échangeant des potins sur les garçons. Ifemelu percevait parfois, sous les séquences bien ordonnées de l'existence de Kimberly, un éclair de regret non seulement pour des choses dont elle avait envie aujourd'hui, mais aussi pour celles dont elle avait eu envie dans le passé. « Vous auriez dû voir Kurt ce matin. » dit Kimberly. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Complètement surexcitée.
À cause de quoi ? Demanda Morgane. Elle se tenait à la porte de la cuisine, son corps juvénile raidi par l'hostilité. Derrière elle, Taylor tentait de redresser les jambes d'un petit robot en plastique.
« Eh bien, chérie, il faudra le demander à oncle Kurt. »
Kurt entra alors dans la cuisine avec un sourire timide, les cheveux encore un peu humides, portant un parfum léger et frais. « Salut !» dit-il. Il avait appelé la veille au soir pour lui dire qu'il n'arrivait pas à dormir. « C'est ridicule, je sais, mais je suis si plein de toi, c'est comme si je te respirais. Tu comprends ?» avait-il dit. Et elle avait pensé que les romanciers avaient tort, que c'était les hommes et non les femmes qui étaient les vrais romantiques.
Morgane demande pourquoi tu as l'air si excitée, dit Kimberly.
Eh bien, Morg, je suis excitée parce que j'ai une nouvelle petite amie, quelqu'un d'extraordinaire que tu connais peut-être. Ifemelu aurait aimé que Kurt enlève le bras qu'il avait passé autour de ses épaules. Pour l'amour du ciel, ils n'étaient pas en train d'annoncer leur fiançailles. Morgane les regardait fixement. Ifemelu vit Kurt à travers ses yeux. L'oncle fringant qui avait parcouru le monde et raconté toutes ses histoires drôles au dîner de Thanksgiving, le type cool, assez jeune pour la comprendre, mais assez vieux pour faire en sorte que sa mère la comprenne.
Ifemelu est ta petite amie ?
Oui, dit Kurt.
C'est dégoûtant, dit Morgane, l'air vraiment dégoûté.
Morgane !
Dit Kimberly. Morgane tourna les talons et monta 4 à 4 à l'étage. Elle a le béguin pour oncle Kurt, et voilà que la babysitter vient marcher sur ses plates-bandes. Ce n'est pas facile pour elle, dit Ifemelu. Taylor, visiblement heureux d'avoir appris la nouvelle et d'avoir réparé les jambes du robot, demanda
« Est-ce qu'Ifemelu et toi, vous allez vous marier et avoir un bébé, oncle Kurt ?»«
Eh bien, mon grand, pour l'instant, nous allons seulement passer beaucoup de temps ensemble pour apprendre à nous connaître. »«
Ah, d'accord. »
dit Taylor un peu déçu. Mais quand Don rentra à la maison, Taylor se jeta dans ses bras en criant
« Ifemelu et oncle Kurt vont se marier et avoir un bébé !»«
Oh !» dit Don. Sa surprise rappela à Ifemelu l'attitude d'Abe dans son cours d'éthique. Don la trouvait séduisante et intéressante. Il trouvait Kurt séduisant et intéressant, mais il ne lui venait pas à l'esprit de les imaginer tous deux ensemble, pris dans les raies compliquées d'une idylle. Kurt n'avait jamais eu de liaison avec une noire, lui dit-il après la première fois dans son penthouse de Baltimore, avec un petit mouvement ironique de la tête. Comme si c'était une chose qu'il aurait dû faire depuis longtemps, mais avait en quelque sorte négligé.
Buvons à un événement historique dans ce cas,
dit-elle en feignant de lever un verre. Wambui avait décrété un jour, après que Dorothy leur avait présenté son nouveau petit ami hollandais à une réunion de l'AEA,
je ne pourrais pas coucher avec un blanc. J'aurais peur de le voir nu, toute cette pâleur. À moins peut-être qu'il s'agisse d'un Italien bien bronzé, ou d'un juif. Un juif très foncé.
Ifemelu regardait les cheveux clairs et la peau pâle de Kurt, les grains de beauté roux sur son dos, la fine toison dorée sur sa poitrine, et elle pensait aujourd'hui qu'elle n'était pas du tout d'accord avec Wambui.
Tu es très sexy, dit-elle.
Tu es encore plus sexy, dit-il. Il lui avoua qu'il n'avait jamais été attiré à ce point par une femme, qu'il n'avait jamais vu un corps aussi beau, avec ses seins parfaits, ses fesses parfaites. Elle s'amusa de l'entendre qualifier de fesses parfaites, ce qu'Obinze appelait un cul plat, et elle pensa que ses seins étaient de gros seins ordinaires, déjà un peu tombants. Mais les mots qu'il prononçait lui faisaient plaisir, comme un cadeau inutilement généreux. Il voulait sucer son doigt, lécher du miel à la pointe de ses seins, étaler une crème glacée sur son ventre, comme s'il ne suffisait pas d'être étendu peau nue contre peau nue. Plus tard, quand il voulut jouer à faire des imitations, et si tu faisais Foxy Brown, la rappeuse, dit-il, elle apprécia son talent pour la comédie, sa capacité à se fondre complètement dans ses rôles, et elle joua le jeu pour lui faire plaisir, ravie de le ravir, même si elle ne comprenait pas qu'il puisse trouver cela excitant. Souvent,
Nue à côté de lui, elle pensait à Obinze. Elle s'efforçait de ne pas comparer les caresses de Kurt aux siennes. Elle avait parlé à Kurt de Moffet, son petit ami du lycée, mais n'avait jamais dit un mot d'Obinze. C'était pour elle un sacrilège de mentionner Obinze, d'en parler comme d'un ex, ce terme désinvolte qui ne disait ni ne signifiait rien. Plus le silence s'installait entre eux, mois après mois, plus il lui semblait que le silence lui-même se solidifiait, devenait une statue massive et dure, impossible à abattre. Il lui arrivait encore de commencer à lui écrire, mais elle s'arrêtait toujours, renonçait toujours à envoyer ses emails. Avec Kurt, elle devint en esprit une femme libre de toutes attaches et préoccupations, une femme courant sous la pluie, la bouche pleine d'un goût de fraise chauffée au soleil. Prendre un verre devint une composante de sa vie, mojitos et martini, blanc sec et rouge fruité. Elle partit faire des randonnées avec Kurt, du kayak, camper près de la maison de vacances de sa famille, toutes choses dont elle n'aurait jamais rêvé auparavant. Elle était plus légère et plus mince. Elle était la petite amie de Kurt, un rôle dans lequel elle se glissa comme dans une robe flatteuse. Elle riait davantage parce qu'il riait beaucoup. Son optimisme l'étourdissait. Il débordait de projets. « J'ai une idée », disait-il souvent. Elle l'imaginait enfant, entourée de trop de jouets aux couleurs vives, toujours encouragée à entreprendre des projets, toujours félicitée pour ses idées les plus banales. « Partons demain à Paris », dit-il un week-end. « Je sais que cela n'a rien d'original, mais tu n'y es jamais allé, et j'aimerais tant te montrer Paris. »« Je ne peux pas décider de partir comme ça à Paris. J'ai un passeport nigérian. Je dois demander un visa avec un relevé bancaire, une carte d'assurance, et toutes sortes de preuves que je ne resterai pas, que je ne deviendrai pas un fardeau pour l'Europe. » »« Ouais, j'avais oublié ça. Très bien, nous irons le week-end prochain. Nous nous occuperons du visa cette semaine. Je demanderai une copie de mon relevé bancaire demain. » « Curtis, » dit-elle d'un ton légèrement sévère pour le forcer à se montrer raisonnable, mais debout à côté de lui, contemplant la ville de si haut, elle était déjà prise dans le tourbillon de son excitation. Il était optimiste, incorrigiblement, comme seul un Américain de son espèce pouvait l'être, et il y avait chez lui un aspect infantile qu'elle trouvait admirable et détestable à la fois. Un jour, ils allèrent se promener dans South Street, qu'elle ne connaissait pas et qui était selon lui la partie la plus intéressante de Philadelphie. Il la prit par la main et ils déambulèrent au milieu des échoppes de tatouages et de garçons aux cheveux roses. Près de Condom Kingdom, il s'engouffra dans une minuscule boutique de tarot, l'entraînant derrière lui. Une femme portant un voile noir leur dit « Je vois la lumière et de longues années de bonheur qui vous attendent tous les deux. » Kurt dit, « Nous aussi. » Et il lui donna $10 de plus. Par la suite, quand l'exubérance de Kurt devint une source d'exaspération pour Ifemelu, une constante joie de vivre qu'elle avait envie de cogner, d'anéantir, ce serait l'un des meilleurs souvenirs qu'elle garderait de lui, tel qu'il était dans la boutique de tarot de South Street, un jour que comblait la promesse de l'été. Si beau, si heureux, un vrai croyant. Il croyait dans les présages favorables, les idées positives et les films qui finissent bien, sans se poser de questions, parce qu'il ne les avait pas considérés en profondeur avant de choisir de croire. Il croyait, un point c'est tout.